France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Sous la pression de la rue et après avoir passé 20 ans à la tête du pays, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fini hier par démissionner de ses fonctions. Une annonce certes attendue, mais qui représente néanmoins un stupéfiant retournement de situation, même si certains redoutent déjà un prochain rebondissement.
Dans votre journal également, l'Alliance Atlantique qui fête aujourd'hui ses 70 ans dans le plus grand désarroi.
Oui, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN ont prévu de se retrouver pour l'occasion en plein cœur de la capitale américaine. Or, on le sait, depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président des États-Unis n'a pas économisé ses critiques envers l'organisation.
Brexit, suite et toujours pas fin.
Bon, après avoir annoncé hier soir qu'elle allait demander un nouveau report de la date de sortie de son pays de l'UE, la première ministre britannique doit rencontrer aujourd'hui le chef de file de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, pour examiner ensemble les moyens de trouver une issue à l'impasse politique. Enfin, le président Emmanuel Macron est arrivé ce matin au palais des congrès de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor pour assister aux premières assises des maires de Bretagne. 2 heures de rencontre avant de boucler définitivement son grand débat national avec un ultime rendez-vous qui s'annonce tendu en Corse demain avec les maires de Lille. Et puis à 12h50, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À l'occasion du 14e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, nous recevons dans la deuxième partie de l'émission Leïla Chaïd, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France, ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Elle sera avec nous et aux côtés de l'écrivain israélien Shlomo Sand dans la deuxième partie de la grande table pour parler cinéma, cinéma et politique.
Merci et à tout à l'heure. Si en Algérie, l'image trompeuse de la stabilité s'était transformée depuis de nombreuses années déjà en une forme d'immobilisme, tant du côté du pouvoir et de son absence de gouvernance et de vision politique que du côté de l'opposition quasi inexistante. Il semble que la concorde civile, chère au président Bouteflika, l'autre nom donné à la paix sociale, n'était pour autant pas parvenu à éteindre entièrement le feu de la contestation, ou quand la propagande entre en collision avec la réalité et que cette réalité finit par prendre sa revanche. Hier, quelques heures après avoir été une nouvelle fois défié par l'armée, le chef de l'État a donc fini par démissionner. Ce matin, après un mois de contestation, les Algériens se sont donc réveillés pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à la tête de leur pays. Mais dès hier soir, dans les rues de la capitale, si l'annonce a certes été accueillie dans la joie, il semble que les Algérois n'entendent pas pour autant baisser la garde. Ils veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir, ou quand le combat pour l'émancipation ne fait en réalité que commencer. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial Kaïna Nazir.
Des jeunes cramponnés sur le toit de leur voiture, sur la rue Didouche dans le centre-ville, les habitants affluent avec leur accessoire fétiche, le drapeau algérien qui recouvre le dos de sa mère.
Le président s'en va et ça veut dire qu'ils vont tous partir aussi. On est heureux parce que là, ça fait longtemps qu'on se retient. Peut-être que maintenant notre vie va changer, je l'espère de tout cœur.
Les jeunes en première ligne depuis le début de la contestation grimpent sur les lampadaires, à trois sur un scooter, tambourinent sur un abribus. À 60 ans, Moumène ne se risque pas à faire des acrobaties, mais son cœur fait des bonds.
Je ressens des sentiments que j'ai ressentis quand j'étais petit. Au moment de l'indépendance, parce que j'avais tout juste 6 ans. Et voilà, je revis à peu près les mêmes moments de bonheur. Ça nous manquait, voilà. On a vécu un certain moment, des moments difficiles avec un régime autoritaire comme celui des Bouteflika. Et voilà, on respire un petit peu. Donc j'espère que ça ira bien pour les jeunes. Notre avenir, nous, les vieux, est derrière nous. Et on est là pour les soutenir, pour les aider à se surpasser. Vous savez, le pire est à venir, est à craindre, parce que maintenant il faut se projeter dans l'avenir, et puis les choses ne sont pas tellement claires, mais le plus important, à mon avis, c'est cette alternance politique qui faisait défaut à un certain moment dans le processus de l'histoire d'Algérie.
La joie n'anesthésie pas la vigilance des Algériens, car ils le répètent tous, Bouteflika ne doit pas partir seul, et la transition doit se faire avec le peuple.
Il y a un grand chantier qui nous attend là derrière, qui va prendre la relève, qui va assurer la transition, est-ce que ça va être l'armée, un état civil, etc. Le combat continue, c'est pas encore la victoire finale. On a réussi à faire plier Bouteflika et...
Vous, c'est l'armée?
Avec 20 millions de personnes dehors, on sort dans toutes les wilayas d'Alger, on sort de partout, etc. Ça m'étonnerait que ça soit juste l'armée. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement populaire extraordinaire, on était tous unis dans ce mouvement-là. Enfin, j'espère que c'est nous, quand même. On a du mérite là-dedans.
Zoher lance, lui, un avertissement.
Ceux qui vont gouverner l'Algérie dans le futur, il faut qu'ils sachent que l'Algérie, c'est une nation. Ce n'est pas un territoire qu'on vient dévaster et piller. L'Algérie, elle a un peuple, c'est les Algériens. Les Bouteflika pensaient que l'Algérie était un pays sans propriétaire. C'est pas vrai.
Et vive l'Algérie, vive la démocratie.
Voilà, un reportage à Alger hier soir signé de notre envoyé spécial Kaïna Nazir. Alors après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, c'est désormais au président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, pur produit du régime, qu'il revient d'assurer l'intérim durant une période maximale de 90 jours au cours de laquelle une présidentielle devra être organisée. Reste désormais à savoir si ce délai de quelques mois jusqu'aux élections sera suffisant pour faire naître des institutions démocratiques sur les cendres d'un système assez largement corrompu. Et pour continuer d'évoquer cette question, invité aujourd'hui de la rédaction, Hasni Abidi, politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour.
Vous avez, monsieur Abidi, entendu comme nous la réaction de la rue hier soir après l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Une réaction mêlée de joie et de grand scepticisme, voire de crainte quant à la suite du mouvement. Est-ce que c'est le cas également pour vous?
Oui, c'est un sentiment de joie et de fierté. En même temps, un sentiment d'inquiétude parce que l'Algérie, elle rentre dans une phase inédite et elle n'est pas préparée pour cette phase, d'où un peu l'inquiétude que je comprends des Algériens sur place.
Une question d'Abila, Nabila Hamel.
Oui, alors un politologue algérien, Rachid Tlemcani, me disait ce matin que le 22 février, date du début de la mobilisation populaire en Algérie, restera une date importante dans l'histoire contemporaine du pays. Mais pour lui, ce qui s'est passé hier est le résultat d'une lutte de clans au plus haut niveau du pouvoir. Mais cela reste quand même une bataille gagnée pour la population, mais pas plus. Il se dit sûr que le mouvement se poursuivra. Hasni Abidi, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres vendredis de manifestations massives en Algérie, comme le disaient d'ailleurs des manifestants hier soir dans notre reportage?
Il est dans l'intérêt de ce qu'on appelle aujourd'hui la rue algérienne, qui est devenue un acteur important, de continuer cette mobilisation, parce que la rue, elle est devenue le seul contre-pouvoir face à un autre acteur qui sort renforcé de cette lutte de clans, qui est l'armée algérienne. Mais l'armée sans la mobilisation, je pense qu'elle n'aurait pas fait grand-chose pour faire dégager le système bâti par le président Bouteflika durant 20 ans. Elle a essayé de sauver le régime en quelque sorte en sacrifiant Bouteflika et ses soutiens, mais il reste encore beaucoup d'autres batailles au sein du Sérail, mais aussi entre la rue et le pouvoir. On verra si c'est un pouvoir civil incarné par le gouvernement et par le Sénat, ou directement un face-à-face entre la rue et la
justice. Justement, Hasni Abidi, juste avant la démission d'Abdelaziz Bouteflika, un gouvernement a été nommé, et à présent, ce devrait donc être le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, qui devrait assurer la transition. C'est un homme proche de l'ancien cercle présidentiel, et il en restera beaucoup d'autres dans les rouages de l'État. Alors comment, à ce titre, envisager une transition qui mènerait à un nouveau régime, Deuxième République, disaient les manifestants, qui inclurait les jeunes générations?
Alors, la jeunesse algérienne et les Algériens, d'une manière générale, jouent un rôle important, mais vous savez que la mobilisation n'en fait pas une offre politique. Cette mobilisation a besoin d'un relais, elle a besoin d'une traduction immédiate, c'est-à-dire formulation de porte de sortie pour négocier avec l'institution militaire qui est par défaut est devenue l'interlocuteur de la rue algérienne. Mais la rue, évidemment, ce sont des millions d'Algériens qui manifestent tous les vendredis. Ils ont besoin de travailler avec les partis politiques crédibles qui existent déjà et certaines figures qui ont émergé grâce à la mobilisation.
Oui, alors justement, ces personnalités qui ont émergé, il y a par exemple l'avocat Mustapha Bouchachi, est-ce que l'on peut envisager une transition négociée avec ces personnalités? Est-ce que les manifestants sortis dans les rues depuis le 22 février accepteraient une transition négociée?
La transition négociée, c'est la seule approche qui sera acceptée par la rue algérienne, parce qu'une négociation imposée ou une succession organisée par le pouvoir, par l'institution militaire, elle sera rejetée par les Algériens. La difficulté, évidemment, elle est dans cette constitution, dans l'article 102 et l'article 7 et l'article 8, puisqu'il y a une contradiction entre faire fonctionner les institutions rejetées en partie par la population et l'article 7-8, surtout l'article 7 qui parle de la volonté populaire. D'où la nécessité de trouver des aménagements juridiques et institutionnels et trouver une réponse politique politique à une crise profonde, c'est-à-dire une personnalité qui va gérer la transition, qui est indépendante du pouvoir, ou songer à une instance de transition. Tout dépendra du calendrier, c'est-à-dire électoral, de la disponibilité des Algériens à aller vers les élections présidentielles. C'est vrai qu'un homme ou un président élu par le peuple, avec cette légitimité, il sera beaucoup plus en mesure de gérer la transition que l'institution militaire qui n'a pas les outils pour cela.
Oui, alors c'est justement un militaire, le général-major Gaït Salah, qui a insisté pour la démission du président Bouteflika. Dans les rues, les manifestants demandent aussi le départ de cet homme-là, du vice-ministre de la Défense. Mais dans les rues, l'on entendait également des slogans comme « L'armée et nous, nous sommes frères ». Alors quel pourrait être le regard porté aujourd'hui sur l'armée qui, somme toute, a toujours eu un impact déterminant dans les différentes étapes traversées par l'Algérie depuis son indépendance ?
Oui, vous avez raison. Depuis 1962, c'est l'institution la mieux disciplinée, la plus organisée. Et en quelque sorte, Bouteflika lui a rendu service parce que, en laminant tous les partis politiques, en évacuant toute alternative, il a laissé le champ libre à l'institution militaire qui a eu raison de lui. Aujourd'hui, on a bien vu dans les dernières sorties de chefs de l'état-major, chaque réunion, il est entouré par les membres de l'état-major, les chefs de région, et c'est ceux-là qui comptent aujourd'hui dans l'institution militaire. C'est un message envoyé au peuple algérien pour dire « Attention, je ne suis pas seul, que mes décisions sont collégiales ». Les militaires ou l'institution de l'armée algérienne bénéficient d'un réservoir de sympathie très important auprès des Algériens. Maintenant, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire un changement graduel qui est le propre de la transition ne passera pas forcément par le départ de tous les hommes du système.
Merci Hasnia Abidi, politologue, je le rappelle, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Nabila Hamel. Dernier monarque absolu d'Asie, le sultan de Brunei, lequel dirige la monarchie d'une main de fer depuis 1967, l'avait annoncé le week-end dernier. Déjà, semant aussitôt la consternation parmi de très nombreuses ONG, mais aussi diverses personnalités inquiètes des atteintes aux droits de l'homme. Son petit pays instaurerait à partir d'aujourd'hui une nouvelle législation prévoyant notamment la peine de mort pour l'homosexualité et l'adultère, mais aussi l'amputation d'une main ou d'un pied pour les voleurs. Et depuis ce matin, donc, au mépris des inquiétudes internationales, le petit état de Brunei, riche en hydrocarbures, est ainsi devenu le premier pays d'Asie du Sud-Est à appliquer au niveau national un code pénal suivant la charia la plus stricte, à l'instar d'une autre monarchie pétrolière, l'Arabie Saoudite. En Malaisie voisine, s'est ouvert aujourd'hui le procès de l'ancien Premier ministre Najib Razak, accusé de blanchiment d'argent dans un gigantesque scandale de corruption. Une véritable saga intitulé un MDB du nom du fonds public dépouillé dans ce scandale et dont les ramifications ne se limitent pas en réalité à la Malaisie mais atteignent le monde entier puisque l'on trouve cité pêle-mêle dans ce dossier aussi bien le nom de la banque Goldman Sachs que celui de grandes stars hollywoodiennes telles que Leonardo DiCaprio ou Paris Hilton pour ne citer que. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Alors il y a quelque temps, Loretta Lynch, l'ancienne procureure générale des États-Unis sous la présidence Obama, avait pour qualifier ce vaste scandale employé l'expression de la plus grande affaire de kleptocratie au monde. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, il s'agit d'une affaire de pillage et de corruption qui apparaît comme le scandale financier du siècle, presque. Peut-être 35 milliards de dollars d'épargne du peuple malaisien détournés pour enrichir des hommes d'affaires proches du pouvoir jusqu'au sommet. Le Premier ministre, ce dernier, a rejeté ce matin, à l'ouverture du procès à Kuala Lumpur, les 7 chefs d'accusation contre lui liés à la corruption et au blanchiment d'argent d'une somme de 10 millions de dollars. L'argent aurait été blanchi dans l'achat d'œuvres d'art, de yachts, d'appartements de luxe dans le monde entier. D'ailleurs, 12 pays, dont les États-Unis, la Suisse et la France, enquêtent sur cette histoire. Outre l'ancien Premier ministre malaisien, vous l'avez dit, de nombreuses personnalités du showbiz auraient bénéficié de ce blanchiment d'argent, soit pour financer illicitement des films à Hollywood, soit, voire et, dans l'acquisition de biens immobiliers à New York, qui a aussi entraîné dans la boue l'une des plus grandes banques d'affaires, Goldman Sachs. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a accusé 2 anciens banquiers de Goldman Goldman Sachs, d'entente en vue de blanchir des milliards de dollars détournés au moyen de ce MDB, Malaysia Development Bernard, nom de ce fonds souverain malaisien de placement qui gère l'épargne aux mains de l'État malaisien en investissant. Il s'agit en fait de l'argent du peuple malaisien volé à des fins d'enrichissement personnel. Ce procès est absolument crucial pour la Malaisie, explique un politologue, mais ce n'est pas qu'une question de transparence, mais d'un gigantesque scandale international qui a fait honte à la Malaisie. Parallèlement, la population est tenue en haleine par ce grand déballage public des coulisses de la politique et de la manière dont l'ancien Premier ministre et sa femme ont détourné des sommes extravagantes.
Merci Nadine Epstein. L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a annoncé ce matin de façon pour le moins impromptue via un compte Twitter qu'il tiendrait une conférence de presse le 11 avril prochain, à l'occasion de laquelle il dirait, je cite, « la vérité sur ce qui se passe ». Précisons que cette prochaine prise de parole intervient alors même que la presse japonaise rapporte, elle, que le parquet de Tokyo envisage d'engager de nouvelles poursuites contre Carlos Ghosn. De son côté, la marque aux losanges vient de signaler à la justice française le versement suspect de plusieurs millions réglés par la présidence du groupe sous Carlos Ghosn. Enfin, l'agence Bloomberg révèle que les frais de scolarité des quatre enfants de l'ex-magnat de l'automobile auraient été payés par Nissan. La Chine et les États-Unis se rapprocheraient de la conclusion d'un accord commercial. C'est du moins ce que rapporte The Financial Times, citant des sources informées des discussions, alors que doit s'ouvrir aujourd'hui à Washington un nouveau cycle de pourparlers entre négociateurs américains et chinois. Avec deux femmes noires en lice pour le poste, l'élection d'hier était déjà historique avant même son résultat. Et avec 74% des suffrages, c'est donc Lori Lightfoot, ex-procureure démocrate, qui est devenue la première femme afro-américaine et ouvertement homosexuelle à devenir hier maire de la troisième métropole la plus peuplée des États-Unis. Toujours aux États-Unis, c'est aujourd'hui que les ministres des Affaires étrangères des 29 pays membres de l'OTAN sont invités à Washington pour célébrer les 70 ans de l'Alliance Atlantique. Pour autant, l'ambiance ne sera pas franchement à la fête. Les tensions entre alliés sont en effet plus que tangibles, et en particulier sur la question de la contribution financière des alliés européens, ce que l'OTAN appelle le partage du fardeau. Une question chère tout particulièrement à Donald Trump. Les précisions de Pierre Benazet.
Il y a 5 ans, les 29 pays de l'OTAN se sont engagés, d'ici 2024, à consacrer à leurs dépenses militaires 2% de leur produit intérieur brut. Et depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a eu de cesse de le rappeler. Ce sommet de Washington est pour lui une nouvelle occasion de pointer du doigt les mauvais élèves parmi les alliés, en particulier l'Allemagne, qui ne vise que 1,5% de dépenses militaires en 2024. Le secrétaire général de l'OTAN marche sur des œufs, bien obligé d'abonder dans le sens du président des États-Unis, mais décidé à lui faire entendre que même les mauvais élèves, en termes budgétaires, font des efforts. Jens Stoltenberg. J'attends de l'Allemagne qu'elle respecte les engagements pris avec tous les autres alliés de l'OTAN, et l'Allemagne a soumis à l'Alliance un plan pour décrire comment les dépenses militaires seront augmentées de 80% en une décennie. Je continuerai à faire en sorte que lorsqu'on parle de partage du fardeau, une alliance équitable, il s'agisse de dépenses mais aussi de contributions aux missions et opérations de l'OTAN, et aussi évidemment des objectifs en termes de capacité militaire.
Face à la montée en puissance de la Russie, les alliés européens espèrent que ce 70e anniversaire sera l'occasion de resserrer les rangs et d'oublier les critiques de Donald Trump sur l'utilité de l'OTAN.
Et une rature de plus à l'agenda européen après avoir reporté une première fois la date du Brexit initialement fixée au 29 mars. Theresa May a annoncé hier soir lors d'une allocution télévisée avoir réclamé un nouveau report jusqu'au 22 mai, le temps de trouver une solution, ce qui ne sera pas chose facile puisque le nouveau plan de Theresa May reste encore à écrire, une rédaction qui devra, qui plus est, s'effectuer à quatre mains puisque la première ministre a décidé pour l'aider de se tourner vers le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn. Alors ce n'est pas la première fois que la première ministre tend ainsi la main au chef de file des travaillistes, sauf que jusqu'à présent, chacun des deux dirigeants campait sur la logique de l'unité de son propre parti. Alors cela peut-il changer? Les précisions à Londres d'Aude Soufi.
C'est la preuve que Theresa May a épuisé toutes les autres options. En demandant l'aide de l'opposition, la première ministre britannique avoue son incapacité à trouver une sortie de crise. Après des mois d'impasse parlementaire, elle a invité hier soir le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, à chercher avec elle une solution.
Je propose aux leaders de l'opposition de s'asseoir et de tenter de s'entendre sur un plan auquel nous nous tiendrons tous les deux pour s'assurer que nous quittons l'Union européenne et que nous le faisons avec un accord.
Jeremy Corbyn a pris connaissance de cette offre en regardant l'allocution télévisée de la Première ministre, mais s'est immédiatement dit ouvert à une réunion qui doit se tenir plus tard dans la journée. Il n'y aura pas de limite, de ligne rouge posée par les travaillistes. Jeremy Corbyn.
Je suis très heureux de la rencontrer. Nous devons avoir une discussion avec la Première ministre. Nous devons nous assurer que le Parlement ait une chance de voter sur des propositions qui nous évitent de sortir de l'Union européenne à la fin de la semaine prochaine.
Pari risqué pour Theresa May qui était obligée, pour obtenir un délai plus long de la part de Bruxelles, de montrer qu'elle cherche un compromis. Mais la Première ministre s'est déjà attirée les foudres de son propre camp. De nombreux militants ont posté sur les réseaux sociaux des photos de leur carte de membre du Parti conservateur coupée en deux. Et un ministre du gouvernement a annoncé sa démission ce matin en signe de protestation.
Pour tenter de mettre fin à l'impasse politique au Venezuela, le président en exercice Nicolas Maduro continue de mettre la pression sur Juan Guaido. Hier, la puissante assemblée constituante fidèle au régime a approuvé une mesure autorisant un procès du chef de file de l'opposition. Après quelques cent heures de débat marathon, Emmanuel Macron doit boucler cette semaine son vaste Tour de France dans le cadre de la consultation nationale que le chef de l'État a lui-même initiée pour tenter de répondre à la crise des Gilets jaunes. Ou dit autrement, dès la fin de cette semaine, le président se trouvera dos au mur lorsqu'il s'agira de décider in fine des suites à donner aux souhaits exprimés par les Français. Alors en attendant, un ultime rendez-vous qui s'annonce tendu, ce sera demain. En Corse, le président est venu assister ce matin aux premières assises régionales des maires de Bretagne. 2 heures de discussion au cours desquelles il se verra restituer les travaux d'une enquête menée auprès de 1200 édiles bretons. Et parmi leurs revendications, Rosalie Lafarge, les élus réclament notamment plus de marge de manœuvre.
Laissez-nous faire, laissez-nous gérer nos territoires. Voilà ce que disent ces maires bretons au président de la République. Ils dénoncent des moyens de plus en plus contraints, déplorent le millefeuille administratif et réclament plus de mutualisation des services entre collectivités. Ils veulent globalement repenser la relation entre l'État et les territoires, pas toujours très cohérente pour Philippe Le Bérigo. Il est maire de l'Île-aux-Moines dans le Morbihan.
L'avenir repose pour les îles sur une politique volontariste de nos communes afin de fixer la population par l'emploi, des logements, des services publics. Pour cela, nous ne demandons pas de passe-droit, mais le souci de l'adaptation des lois et règlements à ces réalités insulaires. À titre d'exemple, qu'est-ce qui n'est pas dans une île un espace proche du rivage.
Des aberrations en matière d'aménagement du territoire, l'Île-de-France n'est pas l'île aux moines, ironise l'élu, appuyé de manière plus générale par Pierre Breteau, président de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine.
Qui est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour un territoire? Sûrement pas l'État central. On est sans doute l'expression de l'attente d'un territoire. Et ce qui est vrai en Bretagne n'est peut-être pas vrai en Alsace, n'est peut-être pas vrai à Bordeaux ou en Corse par exemple.
Pour les 900 maires présents ici à Saint-Brieuc, il est temps d'écrire l'acte 3 de la décentralisation. Ils sont prêts à expérimenter des dispositifs et demandent à Emmanuel Macron de leur en donner la possibilité.
C'est aujourd'hui le dernier jour pour les lycéens de terminale qui doivent s'inscrire en déposant leur dossier sur la fameuse plateforme Parcoursup. Ils devront ensuite faire leur choix entre le 15 et le 20 mai pendant la première phase. Alors le ministère de son côté s'est engagé à revoir pour partie sa copie afin d'éviter de nouveaux bugs. 30 000 places supplémentaires ont notamment été créées cette année. Pour autant, parents, étudiants, mais aussi syndicats restent méfiants car avec les prérequis attendus par les universités, certains bacheliers risquent d'être déçus et de ne pas se retrouver avec la formation de leur choix, ce que dénonce Mélanie Luce. Elle est la toute nouvelle présidente de l'UNEF.
Nous, l'année dernière, on avait demandé à ce qu'il y ait une création de 60 000 places en urgence à la rentrée dernière et 100 000 places pour la rentrée qui arrive. Et on n'a pas vu ces créations de places. Donc en réalité, on s'attend aussi à ce qu'il y ait de nombreux étudiants qui se retrouvent sans inscription au jour des résultats de Parcoursup et à la fin même de la période d'inscription, parce que aujourd'hui on ne fait pas le choix de créer des places pour accueillir les étudiants et les étudiantes, et on continue à avoir une augmentation du nombre de jeunes qui veulent rejoindre l'université. Justement, on constate qu'un an après, le ministère n'a plus de problème à assumer le fait que c'était de la sélection, et en réalité pendant un an on nous a dit non, c'est pas de la sélection, on est juste juste là pour faciliter l'orientation des élèves et faire en sorte de désengorger les formations. Là maintenant, il y a quelque chose qui est assumé et donc oui, nous on le dénonce parce que la sélection, c'est ne pas permettre à chaque jeune de faire ses choix d'études. Sauf que les choix d'études, c'est tout notre avenir qui sont conditionnés par ces choix-là. Et donc effectivement, c'est de nombreux jeunes qui risquent de ne pas pouvoir, enfin qui ne vont pas pouvoir et qui n'ont pas pu faire les études de leur choix, donc arriver à l'emploi de leur choix. Et c'est aussi augmenter la reproduction sociale, puisque concrètement, les premières victimes de la sélection, ce sont forcément les jeunes issus des classes les plus défavorisées. Et ça, c'est quelque chose que nous, on dénonce et qu'on continue à dénoncer.
Voilà, Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, elle répondait à Hakim Kasmi. On termine avec un mot rapide du temps et un ciel chargé cet après-midi avec des précipitations parfois orageuses. Quant aux températures en baisse, elles varieront entre 9 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Demergue. Et vous avez rendez-vous avec Anne-Laure Chouin pour le prochain journal de la rédaction à 18h.